L'élection Miss France a rendu son verdict. C'est Miss Tahiti qui remporte le concours. Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie et première dauphine. La parole doit maintenant revenir aux Calédoniens. Les mots de Sonia Baquès, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, était vendredi l'invitée du magazine Transparence. Le feu de l'île des Pins est toujours actif, mais il a drastiquement ralenti. 6 habitations restent menacées. 70 personnes sont toujours mobilisées. À 4 jours de sa sortie en librairie, les bonnes feuilles du livre de Nicolas Sarkozy dévoilées. L'ancien chef de l'État raconte ses 3 semaines de détention. Le sport avec une nouvelle victoire pour les handballeuses françaises au championnat du monde. Suzanne Wajoka et ses coéquipières se sont imposées 29 à 17 sur l'Argentine. Et puis du windsurf sur le territoire ce dimanche, c'est la journée de la CPV, l'association calédonienne de planche à voile. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité, le concours Miss France. Si près du but pour Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet a été sacrée première dauphine à l'élection Miss France 2026. C'est Miss Tahiti Inaupoko Devez qui a obtenu la couronne, Charlotte Coulson.
Une seule Calédonienne était allée aussi loin dans l'élection, c'était en 1978. Pascal Taouroua avait été sacrée Miss France. Juliette Collet, elle, ne décroche pas ce titre prestigieux, mais celui de première dauphine. Elle s'est démarquée notamment par ses prises de parole. Après avoir été présélectionnée par le jury pour faire partie des 12 finalistes, une minute lui a été donnée pour se présenter. On sentait déjà l'émotion et la surprise dans sa voix.
Bonsoir, je m'appelle Juliette et je suis très fière de représenter ma région après cette longue absence. Dans la vie, je suis ingénieure, secouriste et animatrice radio. Ce soir, je veux porter la voix d'une jeunesse engagée, curieuse et bienveillante. Une jeunesse qui s'adapte plus que jamais et dont je suis fière. Mon rêve à moi n'a jamais été de briller seule, mais plutôt de nous faire briller ensemble. Je suis métisse kanak et provençale, j'ai grandi avec un pied dans les champs de lavande et un pied dans les champs d'igname, et cette double culture est une réelle fierté. Alors ce soir, j'aimerais partager mon rire, comme vous l'avez vu, je rigole beaucoup, mais c'est ce que j'ai de plus cher à vous offrir, ainsi que l'humilité et le respect de ma région. Alors je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.
Les minutes passent, les tableaux se succèdent, les 12 Miss défilent avec un haut noir et une jupe blanche façon Marilyn Monroe, avant d'enchaîner en maillot de bain sur du Mambo No. 5. Et puis l'étau se resserre à l'annonce des 5 finalistes. Le nom de Juliette Collet est prononcé en dernier. Une nouvelle étape franchie grâce à vous qui avez pu la soutenir par SMS et par téléphone. Moment fatidique ensuite pour notre Miss Nouvelle-Calédonie qui a dû répondre à une question du jury. À l'heure des réseaux sociaux, comment rester vous-même dans un monde où tout pousse à se comparer aux autres?
Nous sommes libres d'être tous aussi différents et fiers de notre différence. Nous sommes libres d'être qui nous voulons être, pleinement et fièrement. On parle de confiance en soi. Les réseaux, c'est le champ libre à la critique. Et encore plus ce soir, donc je vous invite tous à être bienveillants avec toutes les femmes qui étaient présentes sur ce plateau. Parce que je le sais, vous êtes sur votre canapé à nous juger et à critiquer sûrement, et on l'a tous fait. Mais il faut savoir que nous avons toutes eu le courage de fouler cette scène ce soir. Et ce n'est pas facile, je viens d'une île où nous sommes très pudiques. Et je suis fière d'avoir ouvert ces portes. Et via mes réseaux sociaux, je suis une des rares personnes sur mon île à me montrer telle que je suis. Et j'en suis fière et j'encourage tout le monde à se montrer tel qu'il est.
Merci beaucoup.
Une réponse qui a séduit le jury Miss France, il faut croire, puisque Juliette a continué son ascension à l'annonce des dauphines. En partant de la 5e, son nom tarde à être prononcé. Elle se retrouve finalement seule, en face à face, avec Miss Tahiti, qui sera finalement sacrée Miss France 2026. Mais la prestation de Juliette Collet aura tout de même impressionné la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, Stella Levanau. Elle est à ses côtés à Paris et nous avons pu la joindre quelques minutes après l'élection.
Juliette a été un excellent parcours. On a eu des retours sur son côté bout en train. Elle adore l'humour. Elle est très fédératrice. Elle a laissé une belle empreinte à la société Miss France. C'est un très beau cadeau que l'on offre au territoire. Elle dansait tout le temps. Elle avait tout le temps le sourire. À la fin, elle était en larmes. Et là, j'ai eu peur parce que je me dis, elle va pouvoir répondre à la question. Donc, elle a fait ses exercices de respiration, elle s'est concentrée et elle a vraiment mais vraiment superbement bien répondu à la question sur les réseaux sociaux. On est très fiers d'elle et merci Juliette pour ce magnifique cadeau que tu fais à la Nouvelle-Calédonie.
Avec le titre de première dauphine, il est possible que Juliette Collet représente la France lors du concours Miss Monde ou Miss Univers. Mais cette place est pour l'instant réservée à la nouvelle Miss France 2026 que nous connaissons aussi en Calédonie. Elle était venue pour nous rendre visite lors de la foire de Bouraï. Il s'agit de Miss Tahiti, Inaoupoko Devez.
Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti.
Miss Tahiti ! Félicitations Miss Tahiti. Premier mot après ce couronnement.
Alors déjà, j'ai un cocktail d'émotions. Je n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. J'arrive pas à réaliser que j'ai la couronne de Miss France sur la tête. Mais le premier mot que j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été sur mon chemin pour en arriver là. Aujourd'hui, cette victoire, elle est collective. Elle n'est pas seulement que pour moi. C'est pour tout un peuple, pour toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont été à mes côtés, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui m'ont poussée à être ici. Merci beaucoup, Maururu. Merci à vous tous.
C'est le début d'une nouvelle aventure pour Inaoupoko Devez et peut-être également pour Juliette Collet. En Calédonie, le gouvernement n'a pas manqué de la féliciter dans un communiqué envoyé quelques minutes après l'élection par son élégance, sa bienveillance et l'émotion qu'elle a su transmettre tout au long de cette aventure. Juliette a profondément touché le cœur des Calédoniennes et des Calédoniens. La Nouvelle-Calédonie est fière de toi.
L'actualité politique, institutionnelle, à présent la parole, doit maintenant revenir aux Calédoniens, déclare Sonia Baquès, qui espère un avis favorable au projet de loi sur la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival. La présidente de la province sud et chef de file des loyalistes était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Sonia Baquès a d'abord été interrogée sur l'annonce du plan de relance du Premier ministre. Un plan de 2,2 milliards d'euros, soit 264 milliards de francs sur 5 ans. La réaction de la présidente de la province sud sur cette aide de l'État.
C'est enfin un plan global qui concerne plusieurs secteurs sur plusieurs années d'accompagnement de l'État. Alors il faudra regarder dans le détail comment tout ça se décline, mais on l'attend depuis très longtemps parce que c'est vrai que c'est très difficile de fonctionner et pour les entreprises et pour les collectivités et pour les particuliers sans aucune visibilité financière. Donc là, c'est cette visibilité-là, même si ça a été écrit par le Premier ministre, tout ça dépend évidemment du vote du budget au niveau national. Et comme on le sait, c'est pas gagné. Si ce plan de relance est adopté par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ça permet d'avoir beaucoup de leviers, beaucoup d'outils pour faire que la Nouvelle-Calédonie s'en sorte en 2026.
Un plan de relance qui comprend 5 piliers, mais qui surtout est échelonné dans le temps, affirme Sonia Baquès.
On a le très court terme avec ce que je vous ai dit sur le budget. 2026, c'est tout de suite comment on fait pour s'en sortir sur les retraites, sur le RUAM, sur Enercal, sur le budget des collectivités. Le moyen terme avec les investissements publics, avec les aides aux entreprises, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans. En tout cas, ce plan, il prévoit sur 5 ans. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait sur le long terme pour éviter que cette jeunesse décroche complètement et s'installe dans la violence.
La chef de file des loyalistes a bien sûr rencontré la mission des facilitateurs qui ont depuis quitté la Nouvelle-Calédonie. Une mission qui a été extrêmement discrète et dont on ne connaît pas vraiment le résultat.
Ils ont tout simplement été arrêtés dans leur élan par la lettre du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui fait un courrier pour dire qu'ils refuseront que les Calédoniens soient consultés sur l'accord de Bougival, écoutez, ça a quand même un peu arrêté toute possibilité de faire quoi que ce soit. Ensuite, nous, on a une position sur le sujet qui était quand même assez claire, qui était de dire, nous, on respecte notre signature. On a signé l'accord de Bougival, on l'a signé, et quand on a signé, la page qu'on a signée, il y a écrit qu'on s'engage à le défendre en l'état. Nous, on a l'habitude de respecter notre parole, notre signature. Il y en a qui tanguent et qui profitent de chaque moment de doute pour se désengager.
Et Sonia Baquès est revenue sur l'attitude des autres groupes politiques.
Je regrette quand même qu'aujourd'hui, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien aient à la fois accepté ce qu'on appelle DEVA, c'est-à-dire l'indépendance association qui a été proposée par Manuel Valls, et aujourd'hui soutiennent le FLNKS dans leur communiqué en disant qu'on ne peut rien faire sans le FLNKS et qui finalement disent pour faire plaisir au FLNKS, il faudrait un nouveau référendum. Le nouveau référendum, c'est la mort de la Calédonie. Donc on va faire quoi? On va aller dans ce sens-là, on va chercher des gens qui aujourd'hui disent clairement, le FLNKS, ils ont le mérite d'être clairs, un, on ne veut pas discuter avec les autres, on veut discuter qu'avec l'État. Et deux, on veut une seule chose, c'est l'accord de Kanaky et l'indépendance. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de grande porte ouverte par rapport à ça. Et je pense qu'ils sont aujourd'hui isolés dans cette position-là. On a l'UNI qui veut avancer ensemble. Nous, on veut avancer ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à soutenir le FLNKS dans sa démarche extrémiste.
Pour Sonia Baquès, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien devraient continuer à soutenir Bougival, le seul accord qui ait été signé par tout le monde. Elle estime que maintenant, la parole doit revenir aux Calédoniens et elle regrette que le Parti Socialiste ait fermé la porte à la consultation anticipée. On verra ce qui se passera demain, lundi, au Congrès, lors de l'examen du projet de loi.
Je ne sais pas. Et ceux qui vous disent qu'ils savent se trompent, parce que tout ça se décidera évidemment lundi. On est 5 groupes politique sur 6 à avoir maintenu notre signature et soutenu l'accord de Bougival. Je ne sais pas comment ces 5 groupes vont se positionner. Ce qui est certain, c'est que le FLNKS votera contre. Ça, il n'y a pas de doute. Pour les autres, on verra bien. Mais vous savez, maintenant, au point où on en est rendu, la situation, c'est que si une majorité des élus du Congrès votent contre cette consultation, ça mettra fin au processus de Bougival. Ça veut dire quoi, mettre fin au processus de Bougival ? Ça veut dire aller aux élections provinciales avec un corps électoral gelé. Donc concrètement, les gens, et je parle en particulier de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, si Calédonie Ensemble et l'éveil océanien votent contre la consultation, ça veut dire concrètement, la suite est très simple, c'est les élections provinciales avec un corps électoral gelé.
Si le Congrès émet un avis favorable sur le projet de loi, c'est le Parlement qui aura la parole, explique Sonia Baquès. On sait que le Parti Socialiste sera contre et les cartes seront donc dans les mains du Rassemblement National. Et si le RN vote contre, les provinciales seront organisées avec un corps électoral gelé. Dans ce cas, le processus de Bougival ne sera pas remis en cause pour autant, mais les loyalistes ne sont pas prêts à de nouvelles concessions. Sonia Baquès ne croit pas qu'un autre équilibre que celui qui a été trouvé à Bougival soit possible.
On n'acceptera pas, compte tenu du vote des Calédoniens, qui ont quand même dit 3 fois non, enfin je veux dire, et on le répète à chaque fois, mais il ne faut quand même pas l'oublier, on n'acceptera aucun projet qui soit en dehors de la France, on n'acceptera aucun autre projet qu'un projet dans la République française, et on n'acceptera pas non plus d'imposer à nouveau aux Calédoniens, dans un délai tel qu'il a été envisagé, de faire un nouveau référendum pour ou contre l'indépendance, parce qu'on voit bien que toute la politique locale, tout le positionnement des Calédoniens, finalement ne se fait plus que là-dessus, et qu'à la fin, on arrive forcément à des tensions, voire à une demi-guerre civile comme on l'a eu. Donc, on n'acceptera pas ça. Et donc, la force de l'accord de Bougival, le caractère créatif de l'accord de Bougival, c'est qu'il n'y a plus de référendum, mais que pour autant, le droit à l'autodétermination existe quand même, puisque la capacité permanente à transférer les compétences régaliennes, avec certes des dispositions qui sont compliquées, ça a finalement remplacé le droit à l'autodétermination tel qu'il existait avec un référendum binaire.
Et malgré la complexité de la situation en Nouvelle-Calédonie et en métropole, même si les provinciales sont organisées avec un corps gelé, cela ne veut pas dire que Bougival est mort, affirme Sonia Baquès.
Je ne crois pas que, si on en allait à... parce que là, la situation politique locale est quand même devenue compliquée avec des gens dont on ne sait pas s'ils représentent encore quelque chose, et je pense à Calédonie Ensemble, s'ils sont encore représentatifs, on continue finalement à se baser sur la vie de ces gens-là. Situation politique locale complexe, situation nationale très 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 compliquée. Donc, si on en arrive à l'échec, quand même, qui est les élections avec un corps électoral gelé, c'est pas pour ça que Bougival est mort. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que les choses ne continueront pas sur cette base-là.
La présidente de la province sud a aussi été interrogée sur la politique provinciale. Elle relève qu'il était essentiel de voter le budget parce que c'est un élément de stabilité et elle insiste sur la mise en place des dispositifs d'accompagnement prévus par la province à l'image de Sud Pro, Sud Santé, Sud Jeune, Sud Relance ou encore Sud Retour.
La politique toujours avec le congrès exceptionnel du FLNKS qui se tenait hier à Ponériouin. Dans son discours d'ouverture, Christian Théin a demandé à l'État d'établir un dialogue autour de la question de la pleine souveraineté et d'en fixer la date avant l'élection présidentielle de 2027. Il a réaffirmé que le FLNKS reste ouvert au dialogue, mais uniquement pour parler de l'accession à la pleine souveraineté. Dans le cas contraire, le président du FLNKS affirme que le Front pourra déterminer lui-même le statut de la Nouvelle-Calédonie et déclarer unilatéralement l'indépendance. Christian Théin a également déclaré que l'État tente de passer en force l'accord de Bougival. Et il rappelle que le Front est désormais opposé au texte que sa délégation avait signé en juillet dernier. Les travaux de ce 46e congrès se sont terminés aux alentours de 21h30.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À l'île des Pins, c'est le 101.
Les pompiers sont toujours très actifs à l'île des Pins. Cette nuit, les flammes ont ralenti. Le feu n'a progressé que de 50 hectares comparé à plusieurs centaines hier. Néanmoins, le feu progresse toujours vers l'aérodrome et des habitations sont toujours menacées. Le point avec le capitaine Laurent Thomas, officier de permanence de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques.
Écoutez, ce matin, la reconnaissance de 7 heures a permis de constater que le foyer avait progressé de 50 hectares dans la nuit, ce qui est beaucoup moins que ce qui s'est passé hier. Hier, on avait des vitesses de propagation à hauteur de 7 km/h. Depuis 9 heures, on a déployé 3 secteurs d'intervention. La lisière la plus active, qui est complètement à droite du feu, en direction des tribus de Touété, de Ouacha ou de Touati, elles sont actuellement dans les fumées. Il y a 6 habitations qui sont directement menacées par les flammes. Donc voilà, il y a une action coup de poing menée par les hélicoptères bombardiers d'eau. Et on a 2 dispositifs au sol qui sont en cours de déploiement pour venir casser cette fameuse tête de feu active sur le secteur droit et qui se dirige tout droit vers l'aérodrome.
La mairie, la société civile, le personnel de l'aérodrome et de l'association ABBN de l'île des Pins sont toujours activement mobilisés. Au chapitre des faits divers, toujours en bref, une intervention des sapeurs-pompiers de Nouméa hier soir à la Bodega. Une jeune femme d'une trentaine d'années a fait un malaise aux environs de 00h30. Elle a pu être réanimée avant d'être prise en charge par le SMUR et conduite au Médipôle de Coutiou. Notre opération au cœur de Noël sur Radio Rythme Bleu, lancée depuis déjà 2 semaines, l'occasion d'apporter des cadeaux ce dimanche aussi pour donner aux plus démunis un geste d'attention et de solidarité qui va permettre aux familles en difficulté d'offrir à leurs enfants des cadeaux pour que Noël soit une fête pour tous. Tout ce que vous apportez sera distribué aux familles que suivent nos partenaires, je les rappelle, la Croix-Rouge, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les portes de la radio sont ouvertes jusqu'à 19h. Les Calédoniens appelés également à faire preuve de charité ce dimanche. Les Petites Sœurs des Pauvres organisent leur grand marché de Noël au Faubourg Blanchot. Sur place, des pâtisseries préparées par les dames de l'association, des créations artisanales mais aussi des animations musicales. L'occasion de faire une sortie en famille tout en faisant une bonne action.
Tous les dimanches, je viens à la messe. Et là, aujourd'hui, pour le marché de Noël, je souhaitais participer à ma façon. Oui, c'est très important pour moi, dans le sens où quand on a besoin de quelque chose, ils sont toujours là. Et un jour, ils m'ont dépanné pour regarder ma mère qui a 90 ans.
Ah oui, moi, j'aime beaucoup ma maison. C'est une institution et c'est pour aider les petites sœurs des pauvres. On veut que ça dure et qu'elles soient très heureuses et on essaye d'améliorer les choses. Il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses à acheter pour les enfants, pour les adultes. Hein. Des plantes, des objets d'art... des petits tableaux, des jouets.
Voilà. Le grand marché de Noël des Petites Sœurs des Pauvres, c'est jusqu'à 15h à ma maison au Faubourg Blanchot. 12h17, on marque une première pause avant de voir l'actualité nationale et internationale.
Après les Nickel Boys, la compagnie Caravan Spoutnik revient au Théâtre de Lille avec « Jamais fini Noël », une comédie chorale originale, pétillante et impertinente. Les 6 et 7 décembre, découvrez une série de sketchs inspirés des traditions et des petits travers des fêtes de fin d'année. Spectacle déconseillé au moins de 13 ans. Rendez-vous au Théâtre de Lille, réservation sur ticket.nc.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Il est 12h18, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
La politique à la une de l'actualité en métropole, les derniers développements autour du budget. Après avoir adopté hier la partie recette du projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale a réintroduit cette fois dans le volet dépenses la suspension de la réforme des retraites. Prochaine étape, le vote mardi sur l'ensemble du texte. Sébastien Lecornu incite les députés à se prononcer, je cite, « en conscience pour l'intérêt général ». Ces dernières heures, le Sénat a voté pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Dans l'actualité également, à 4 jours de la sortie du livre « Événements » de Nicolas Sarkozy, les bonnes feuilles dévoilées ce week-end, 213 pages d'un récit à la première personne où l'ex-chef de l'État revient en détail sur ses 3 semaines de détention. C'était à la prison de la Santé à Paris, une première pour un ancien président français, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Une cellule de 12 mètres carrés est le strict minimum pour vivre. Dans le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy décrit son quotidien dans les moindres détails, marqué par l'ennui, la solitude et un environnement hostile. « Je fus frappé par l'absence de toute couleur », écrit l'ancien président. « Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. » Nicolas Sarkozy n'élu de rien. Les parloirs avec ses proches sont une bouffée d'oxygène pour ne pas sombrer psychologiquement, tout comme la foi. Au premier jour de son incarcération, l'ancien président s'agenouille pour prier. « C'est venu comme une évidence », raconte-t-il. « Je suis resté ainsi de longues minutes. Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice », poursuit l'ancien président, qui décrit également ses longues discussions avec l'aumônier de la prison. Mais la politique n'est jamais loin. Nicolas Sarkozy évoque, entre autres, ses liens distendus avec Emmanuel Macron et le soutien inattendu de Marine Le Pen ou de Sébastien Chenu. Un livre intime où chaque ligne dessine l'impensable, la vie en prison d'un ancien chef de l'État qui clame toujours son innocence.
Et des librairies où l'on trouve déjà « Ce que je cherche », le livre de Jordan Bardella qui est parti à la rencontre d'une vingtaine de Français. Le président du Rassemblement national était justement en déplacement hier dans le Nord pour le dédicacer. Première fois qu'il se prête à cet exercice depuis qu'un retraité lui a écrasé un œuf sur la tête. C'était déjà lors d'une séance de dédicace le week-end dernier. L'actualité à l'international à présent, c'était il y a un an, une coalition de rebelles qui lançait son offensive éclair en Syrie et qui faisait ainsi chuter le dictateur Bachar el-Assad, contraint de s'exiler à Moscou après 24 années de pouvoir. Depuis, l'ancien djihadiste Ahmed el-Sahra règne d'une main de fer sur le pays, faisant de lui un dirigeant au double visage. Laura Legault pour Europe 1.
Ahmed el-Sahra a réussi à s'imposer sur la scène internationale, reçu par Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU et en novembre par Donald Trump. Mais sur le plan intérieur, la réalité est tout autre. Pour Fabrice Ballanche, professeur à l'Université Lyon 2, la situation en Syrie n'a pas évolué depuis la chute de Bachar al-Assad.
Finalement, les maîtres ont changé, mais le système elle-même. On a un système policier qui se renforce avec des religieux combattants qui occupent toutes les positions clés et qui surveillent en fait ce que font les ministres. Et sur le terrain, on a donc beaucoup d'insécurité, des kidnappings, des assassinats.
Loin de ses promesses d'unité et de stabilité, le chef d'État a donc imposé un pouvoir autocratique sur la Syrie, selon Fabrice Ballanche.
On se dirige tout droit vers une république islamique autoritaire, avec l'élimination progressive des minorités. Après le massacre de mars, tous les Alaouites veulent quitter le pays.
Les Alaouites dans le viseur, mais aussi les chrétiens et les druzes. Un an après l'accession au pouvoir d'Ahmed el-Sahra, les scènes de liesse populaire semblent bien loin.
Et toujours au Proche-Orient, notez qu'à Gaza, le Hamas se dit prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne à une condition, que l'occupation cesse de la part des Israéliens. 12h22, on marque une seconde pause dans ce journal. On parlera sport juste après.
Jusqu'au 12 décembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour deux personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20, tirage au sort le vendredi 12 décembre à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf. Info au 25 07 00 et retrouvez le menu spécial Noël sur la page Facebook Le Rouf.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Il est midi 23, la fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Et le sport avec la natation. Un grand Maxime Grousset au championnat d'Europe en petit bassin en Pologne, Mickaël Juneski.
Oui, le Calédonien continue effectivement ses belles performances. Il a décroché l'or en finale du 100 mètres nage libre, un temps de 45 secondes 17 centièmes en finale ce matin. C'est déjà sa quatrième médaille dans ces championnats d'Europe. Après l'or sur le 100 mètres papillon, l'argent sur le 100 mètres 4 nage et le bronze sur le 50 mètres papillon. Et ce matin, Maxime Grousset a également réalisé en 20 secondes 83 centièmes, le meilleur temps des demi-finales sur 50 mètres nage libre. Il est donc qualifié pour une nouvelle finale.
Les sports collectifs avec du handball dames, l'équipe de France s'est une nouvelle fois largement imposée lors des championnats du monde.
Victoire 29 à 17 face à l'Argentine, score large mais un succès sans la manière pour les Bleus et Suzanne Wajoka qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition avant même le dernier match de groupe contre les Pays-Bas. On écoute Oriane Ondono qui a marqué son 300e but sous les couleurs de l'équipe de France mais qui reconnaît que la partie n'a pas été facile.
Sur la deuxième partie, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a voulu continuer à monter les ballons, on en a perdu pas mal. Ça manquait un petit peu de maîtrise. Après, ça n'a pas été préjudiciable parce qu'on a quand même un score assez bien. Mais c'est vrai que sur la fin, on a un petit peu bégayé à certains moments. Ouais.
Le rendez-vous est donné pour le dernier match de groupe, mardi matin France-Pays-Bas, à partir de 6h30, heure de Nouméa, avec la Calédonienne Suzanne Wajoka, qui vit, on le rappelle, son premier championnat du monde.
Du football en métropole avec la suite de la 15e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain en démonstration, mais c'est Lens qui garde la tête.
Ouais, les Lensois qui se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Nantes, grâce notamment à un nouveau but de Florian Thauvin. Les Sons et Or et conserve la tête du championnat de France juste devant le Paris Saint-Germain, vous le disiez, hein, qui a écrasé de son côté Rennes 5-0. Autre rencontre de la matinée, Toulouse qui a dominé Strasbourg 1-0. Victoire également hier de Brest sur Monaco 1-0 et de Lille sur l'OM sur le même score.
Du rugby, pas de top 14 ce week-end puisque les clubs français sont engagés en Champions Cup.
Hier, en ouverture de la compétition internationale depuis l'entrée en lice des équipes sud-africaines, l'Aviron 1 bayonnais s'est incliné contre les Stormers 26-17. Aujourd'hui, lourde défaite de l'AS Clermont sur le terrain des Saracens, 47-10. En revanche, victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en Afrique du Sud contre les Bulls. Donc victoire 46-33 de l'Union Bordeaux-Bègles de Yoramo et Fana. Victoire également du Stade Rochelais sur les Leicester Tigers sur le score de 39-20.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports mécaniques avec la Formule 1, dernier Grand Prix de la saison ce soir, un Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera décisif. Max Verstappen a été impérial lors des qualifs.
Le pilote Red Bull qui a dominé en effet cette séance et qui s'élancera donc en pole position, actuellement deuxième du classement du championnat du monde des pilotes à 12 petits points de Lando Norris sur McLaren. Max Verstappen doit s'imposer et espérer une contre-performance du Britannique pour décrocher un cinquième sacre mondial. Mais Lando Norris ne compte pas laisser filer le titre. Il a réalisé le deuxième meilleur temps des qualifications. Il sera donc juste devant son coéquipier sur la grille de départ, Oscar Piastri. Le meilleur français, c'est Esteban Ocon au volant de sa Haas. Après un très mauvais début de week-end, il a finalement pris la 8e place sur la grille de départ.
Énormément de choses se sont passées depuis hier et c'est clair qu'on avait touché le fond hier. C'était vraiment, vraiment pas un bon moment. On était, comme je l'ai dit, à 5 dixièmes à tous les tours de où on devrait être et on a changé la voiture complètement cette nuit. Chaque réglage a été changé et la voiture a pris vie. Ça fonctionne comme ça devrait fonctionner depuis beaucoup de courses. Donc, ouais, honnêtement, c'est le meilleur moment de l'année. Là. Ça fait vraiment plaisir.
Esteban Ocon qui s'élancera donc de la 8e position sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, juste devant Isaac Hadjar, l'autre Français 9e. Pierre Gasly, encore un pilote tricolore, s'élancera lui de la 19e position. Départ de ce dernier Grand Prix de la saison à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport sur le territoire, les fans de windsurf ne manqueront pas le rendez-vous aujourd'hui. L'association calédonienne de planche à voile organise sa journée événementielle sur la base nautique Charles Cali.
4 coups en un pour la CPV, le challenge de la One Hour Classic côté compétition, l'hommage à Michel Berthomier, disparu il y a 2 ans, mais aussi un marché de la glisse, un vide-grenier d'équipement dédié au windsurf ou encore des initiations et des sessions à découverte de windsurf ou wingfoil. Les visiteurs étaient conquis.
On a décidé de venir tester un peu le wing foil, enfin le wing d'abord et après wing foil, on verra. Ça donne envie et puis on a déjà fait de la planche à voile donc on était intéressé pour essayer un autre sport.
Ça donne envie mais ça a l'air impressionnant quand même de comment ils manient justement leur voile. C'est assez sympa et ça donne envie d'essayer, ouais, c'est sûr. Je pense qu'on ne regrettera pas d'avoir essayé en tout cas.
Du team à CPV, c'est ça?
Oui, c'est ça. On permet de bien organiser et d'aider les gens qui apprennent. Comme ça, en plus, ça permet de faire découvrir le sport. Déjà, il y a du monde, donc c'est super convivial. Et franchement, c'est sympathique comme activité un dimanche. Ça fait bizarre parce que nous, on est plutôt entraînés qu'entraîneurs. Et du coup, là, il faut parler de façon à bien faire comprendre les gestes et mouvements à faire, donc c'est assez compliqué. Une belle mer et un beau lagon, donc faut se lancer et pas hésiter.
Une belle occasion de promouvoir les activités du club, estime Sean Hogan, coordinateur des événements à la CPV.
C'est une méga journée de la glisse pour nous aujourd'hui. Donc on a le marché de la glisse qui est énorme. On a déjà une vingtaine de personnes qui sont venues vendre leur matériel et acheter aussi. On a doublé ça de la journée initiation découverte, donc initiation gratuite, wing et planche à voile. Et on finit en apothéose avec la One Hour Classic, maison de l'Oriflamme, dédiée à notre regretté Michel Berthomier. Donc One Hour Classic, qu'est-ce que c'est? On part lancer derrière un bateau et on a deux bouées. Il faut les relier l'une à l'autre pendant une heure non-stop en faisant des boucles. Celui qui fait le plus grand nombre de tours a gagné. Super simple, super convivial.
Les journées portes ouvertes de la CPV qui se déroulaient toute la matinée avant la One Hour Classic. Ça se passe donc à la base nautique Charles Cali de la Côte Blanche.
Et puis on termine avec un coup d'œil au reste du programme et des résultats.
Un événement phare de ce dimanche, la grande finale de la Super League de futsal cet après-midi à 16h30 à la salle Jacques Wawanabou de Nouméa. La SPTT sera opposée au FC Ferrand. Je rappelle qu'hier en foot féminin, en finale de la Coupe de Calédonie, ce sont les joueuses de l'Icewedge qui se sont imposées sur le Jeou Atlético Club. Deux buts partout à la fin du temps réglementaire. Ça s'est terminé aux tirs au but. En squash, la fin du BNP Paribas Enzo Open de Dimbéa. Le Calédonien Nicolas Masnet a réussi à prendre la troisième place en battant le Samoan Mason Smales. C'est la grande finale qui a été remporté par le Britannique Jameson Freddy face au Kiwi Wills Donnelly. Amarré, le trailer calédonise courait hier matin sur la course Rennes, le grand raid de 20 km. C'est Thomas Toubouli qui l'a emporté. Enfin, en natation jusqu'à ce soir à la piscine du CNC, ce sont les championnats de Nouvelle-Calédonie en bassin de 25 mètres qui se disputent.
Merci beaucoup Mickaël. 12h passées de 31 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera dans un peu moins d'une demi-heure, du coup 29 minutes tout pile à 13h pour le rappel des titres. À tout à l'heure.